Ce soir, c'est le cours numéro 10. Il nous en restera deux derrière pour finir le semestre et tenter de couvrir tous les livres du Nouveau Testament. Donc ce soir, on va redémarrer sur 2 Thessaloniciens et ensuite on va enchaîner les livres suivants. Et normalement, ce soir, on devrait aborder certains sujets un peu différents. Ça peut être assez sympa, en fait. Ouais, ça peut être assez sympa dans le sens que il y a des, on va dire, des têtes de chapitre qui sont un peu casées avec des choses. Ça peut être bien. Alors juste 2 Thessaloniciens. La semaine dernière, on avait vu donc le retour de Christ, l'avènement de Jésus-Christ, donc qui est le deuxième retour quand il revient pour régner à la fin de la tribulation pour les 1000 ans, donc, et donc la réunion avec Jésus-Christ, qui est, donc je vous avais dit, l'enlèvement de l'Église. Et une chose qui marquait cela et qui montrait bien une différence entre les deux événements, et qui pour moi expliquait, à mon avis, clairement que l'Église n'était pas là pendant la tribulation, c'était ce que je vais vous relire là ici, parce qu'en fait, je vous le relis d'abord. D'abord, je vous le relis. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, voilà, à partir du verset 5. « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ?» Donc, l'homme impie, il doit venir avant les derniers événements. « Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, » donc j'avais dit que c'était un neutre, « afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, » donc l'homme impie, « car le mystère de l'iniquité a agi déjà, il faut seulement que celui qui le retient, » donc là, c'est pas un neutre, qu'il retient encore, est disparu, et alors paraîtra l'homme impie, etc. Et donc on avait vu la suite et tout. Et donc sur cela, je vous avais expliqué que pour moi, c'était clair que c'était le Saint-Esprit qui allait plutôt partir, et qui donc retenait la venue de l'homme impie, et qui faisait que ce n'était pas encore le temps. Et je vais vous lire une note d'un théologien francophone qui est mort, qui est très bon du XXe siècle, qui est très bon, qui a fait beaucoup de bons ouvrages, dont pas mal que j'utilise d'ailleurs, mais qui lui n'a pas notre théologie sur la fin des temps. Donc il n'est pas prémillénariste, il est amillénariste. Donc il croit que nous sommes déjà dans un millénium spirituel. Et je vais vous lire la note qu'il a écrite dans un livre qu'il a fait, concernant ce passage-là. Je vous la lis pourquoi ? Je vous la lis pas pour se moquer de lui. Je la lis parce que je pense que ce que j'ai expliqué la dernière fois et ce que j'explique généralement sur ce sujet-là me paraît quand même assez clair, correctement soutenu par les Écritures, cohérent et que ça a du sens. Et voilà, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, on pense que telle chose fait que on doit l'interpréter d'une certaine manière et ça annule tout d'autres choses que j'ai dit, ou comme lui et comme d'autres, on fait des choix dans la manière d'interpréter certaines parties des Écritures, ce qui fait qu'on tire des conclusions différentes, bien sûr. Mais voilà, donc c'est pas du tout pour le dénigrer, c'est pas pour se moquer, c'est juste pour montrer qu'une personne, en l'occurrence, qui est un ponte, mais et je sais pas du tout de l'ironie de ma part, il est certainement bien plus calé que moi, juste le verset là qu'on vient de lire là, ce qui le retient et celui qui le retient, c'est le genre de verset où, étant un millénariste, il serait souhaitable qu'il ait un tant soit peu une explication qui n'aille pas dans mon sens et qui, mais par contre qui ait du sens, d'accord. Et je vais vous lire donc ce qu'est son explication. Et donc le but n'est pas de rigoler, le but c'est juste de voir que des fois on croit quand même des choses, je parle de nous, qui sont pas si bêtes que ça. Non mais voilà, parce que des fois on peut dire, voilà, oui, maintenant on dit ça, ouais, peut-être je crois ça parce qu'on m'a dit machin, j'ai pas trop la capacité d'étudier, de trop savoir et tout, je fais un peu confiance et tout, mais il y en a d'autres qui pensent autre chose, et si finalement j'étais ailleurs, peut-être que je penserais autre chose. Ce qui est certainement vrai. Mais juste pour vous montrer que même des gens qui sont super calés, des fois l'explication qu'ils ont sur des versets ou des points où il faudrait qu'il dise quelque chose d'un peu plus solide, on va dire. Ben, c'est pas très solide. Donc lui, l'apôtre, bon, je vous lis simplement sa note, hein. L'apôtre parle de ce qui retient l'apparition de l'homme sans foi ni loi et de celui qui le retient. Donc c'est ce qu'on a dit. Bon, pour moi, c'est le Saint-Esprit, c'est net. Et voilà. Donc les Thessaloniciens savaient ce qu'il fallait mettre sous ces mots, mais le souvenir s'en est vite perdu. Malgré de nombreux essais d'interprétation, le mystère demeure. Donc on peut ne pas être d'accord, mais ça, ça peut pas être une explication qui peut être recevable. Vous voyez ce que je veux dire ? Soit je dis, j'en sais rien, j'ai pas assez étudié. Bon, là, c'est sûr que vu le livre où il le met, si t'as pas assez étudié, t'écris pas le livre. Mais voilà, juste pour vous montrer que, voilà, des fois, nous, on peut avoir l'impression d'être à court d'arguments face à des choses qui nous sont mises ou face à des versets, peut-être qu'on se dit, ça peut pas vouloir dire ça, mais finalement, je sais pas très bien qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est vrai que des fois, on est à court. En même temps, nous, on n'est pas... Là, généralement, on n'est pas forcément des top théologiens sur la planète. Et là, par contre, c'est plutôt un top théologien. Et si t'as pas plus à me dire pour m'expliquer ça, je trouve que c'est court. Voilà. Et encore une fois, c'est pas du tout pour le dénigrer, parce qu'il est très bon. Et dans 99,9% du reste de voilà, simplement sur ce point-là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour certaines raisons. Et là, quelque part, j'attendrai simplement quelque chose de plus solide, même si je suis pas d'accord. Même si j'ai mes arguments et toi t'as les tiens, mais quelque chose de plus solide. Et d'autant plus que lui, en général, quels que soient les versets, quels que soient les avis, quels que soient ce qu'il amène de lui ou des autres, en général, c'est construit. En général, c'est construit. C'est construit de sa part et c'est construit de la part de ceux dont il se fait l'écho, même quand il n'est pas d'accord avec, simplement pour présenter une diversité de points de vue sur un passage, une doctrine ou n'importe. Donc voilà, je voulais vous le dire dans un sens un peu d'encouragement et surtout pas de se moquer, c'était pas du tout le but. Donc sur Thessalonique, je voulais rajouter une chose. Je vous l'ai lu, mais je vais faire un petit commentaire dessus. Toujours chapitre 3, 2e Thessaloniciens. Donc voilà, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, donc là, en l'occurrence, bon, vous avez compris, hein, il parle essentiellement du retour de Christ, mais il parle aussi quelque part de conséquences pratiques au fait de croire une chose ou pas, puisqu'on avait dit qu'il y avait un petit problème avec le fait que certains croyaient que Jésus revenait là de suite, ou voire même qu'il était déjà revenu, puisqu'ils disent que son avènement est déjà là. Et du coup, il y en avait, du coup, qui travaillaient pas et qui étaient, on va appeler ça pique-assiette, peu importe. Et lui, il dit, ben non, faut pas se comporter ainsi. Donc, il y a des conséquences, en général, à notre théologie. Donc, si quelqu'un n'obéit pas, mais c'est pas ça que je voulais dire, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, donc, notez-le, n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Donc ça peut effectivement paraître sévère. Le but, c'est la repentance. Le but, c'est aussi peut-être de pas être, de pas être pas perturbé, mais en tout cas emmené dans des fausses doctrines, parce que là, c'est quand même le cas de fausses doctrines. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est au verset 15. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ça, je trouve ça très intéressant. En Timothée, à un moment donné, il dit reprenez les hommes âgés comme si c'était vos pères, les femmes comme si c'était vos mères, et les plus jeunes comme si c'était vos frères. Et juste, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir la juxtaposition avec un verset qui peut paraître sévère, parce que bon, quand même, il dit notez-les, n'ayez pas de communication avec. Je pense que souvent on le pratique pas ça. Hein? Peut-être que des fois on devrait, on le fait pas. Et puis voilà, peu importe. Mais en tout cas, derrière, c'est ne le regardez pas comme un ennemi. Et ça, c'est intéressant parce que même sur des points qui peuvent être un peu, on va dire, abrasifs, un peu durs, un peu secs dans la parole de Dieu, on ne doit pas perdre de vue que on s'adresse à des frères, à des sœurs. Et pour les païens, on s'adresse à des créatures de Dieu. Voilà. Et ça doit en tout cas adoucir au moins la forme selon laquelle on dit les choses qu'on a à dire aux gens. Donc voilà. Alors ça c'est une chose. Ensuite, je voulais passer donc les livres suivants. 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Et alors là, on va venir fouiller un peu par ici pour expliquer certaines choses. Pim-poum. Ok. Alors, je vous dis ce que j'ai relevé. Donc toujours pareil au niveau des dates. Ne soyons pas stricts absolument à l'année près. Mais bon, c'est à peu près ça. La première lettre à Timothée, donc elle est datée de 65 ou 66. Après Jésus-Christ, évidemment. Elle est écrite en fait entre les deux emprisonnements à Rome de l'apôtre Paul. Et la deuxième lettre à Timothée, elle est écrite en 66 ou 67, dans ces eaux-là. Et là, par contre, il est emprisonné. C'est manifestement la fin de sa vie et on va lui couper la tête. Et comme j'avais dit la semaine dernière, du coup, ça donne une autre teneur à des choses qu'il peut dire et aussi au choix des choses qu'il a à dire. À savoir que la lettre à Tite, donc qui est dans notre Bible à la suite, en fait, elle est écrite entre les deux. Et donc, elle est écrite également, pas en prison, mais entre les deux emprisonnements. Donc, je répète peut-être certaines choses que j'ai dit la dernière fois. Timothée, donc, était un pasteur à Éphèse, et donc, il reçoit là des conseils pastoraux, mais pas que. Pas que, comme je vous l'ai dit, ça parle de choses un peu plus variées, mais comme il est pasteur et comme il y a des choses spécifiques qui sont dites sur les pasteurs, les anciens, les diacres, et qu'en plus il n'y a pas d'autres exposés relativement longs ailleurs dans le Nouveau Testament, on a tendance à appeler ça, et on n'a pas que tendance, on l'appelle des épîtres pastorales. Et Tite, c'est la même chose. Tite, c'est beaucoup plus court. Donc ça, c'était une chose. Donc déjà, il y a des faux docteurs. Donc de Timothée, je vous avais dit que c'était plus personnel parce que c'est vraiment la fin et il est en prison. Et en plus, il est seul ou presque, puisqu'il dit qu'il n'y a que Luc qui l'a pas abandonné. Et il cite des gens qui, voilà, qui soit se sont mal comportés, soit simplement n'étaient pas là. Et il a dit que dans sa première plaidoirie devant les tribunaux, il a été seul. Mais en fait, il s'en plaint pas non plus. Alors maintenant, dans 1 Timothée, on va voir certaines choses, des choses qui peuvent pas forcément qui sont compliquées à comprendre, mais qui peuvent faire, est-ce qu'on peut dire débat? Qui devrait même pas faire débat d'ailleurs, mais qui peuvent être compliquées dans le contexte dans lequel nous sommes. À l'époque où nous vivons surtout. Une chose que je vais vous dire de suite, le Nouveau Testament, on est d'accord, il est écrit premier siècle après Jésus-Christ. Il y a, je dirais que depuis, on va dire, on va faire simple, depuis le XXe siècle, la vie dans la société, la structure de la famille, la structure de la société, enfin, a changé par rapport à tous les siècles passés. Le rôle ou la place ou la manière de voir la femme dans la société, dans nos sociétés dites modernes, a changé aussi. Et en même temps, l'apôtre Paul et autres, et consorts, ils écrivent au premier siècle après Jésus-Christ, et la réalité du premier siècle est la réalité des 18 siècles qui suivent, et des siècles passés. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas interpréter au 20e, enfin, on peut pas interpréter ou chercher à donner un sens particulier ou à vouloir enlever la teneur de certains versets parce que depuis un siècle et demi, nos sociétés, et je parle même pas de l'Église, forcément que l'Église a tendance à suivre plus ou moins le mouvement, mais en tout cas, et même, je vais même dire, même sans parler de bien ou de mal. Simplement, on vit une vie qui n'est pas la même. Les siècles passés, la femme, d'ailleurs, il n'y a pas de divorce. La femme, sa fonction était essentiellement de faire des enfants, on va dire, si on veut parler de fonction dans une société. Et voilà, je veux dire, c'était comme ça. c'était pas forcément bien, c'était pas forcément mal, c'était bon, peu importe. C'est pour ça que je dis ça, pourquoi? Parce que il y a des, parce que là on va parler de quelques versets où il est parlé de la femme et où lu de prime abord avec notre contexte à nous, on va dire bon, c'est bon, ça je l'arrache et je lis le reste. Et on n'est pas appelé à l'arracher. Par contre, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Comment on doit le comprendre? Et voilà, simplement en fait. Parce que en même temps, je pense que dans le sens peut-être d'une femme révoltée, c'est pas correct. Et dans un autre sens, d'une manière d'appliquer les choses, d'une manière, je dirais, bête et imbécile de la part des hommes, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Donc voilà, et en même temps, je vais tenter de vous montrer, sans forcément développer plus que ça, mais quand même, je pense que j'ai fait quelque chose de pas mal, quand même vous montrer qu'est-ce que veut dire Paul, et avec beaucoup plus de simplicité que la complexité qu'on veut lui soumettre, en fait. Donc, on va aller directement là-dessus, ensuite on flottera ailleurs. Donc le passage qui m'intéresse par rapport à... Alors attendez, on va poser une chose, non, parce qu'il y a quand même d'autres choses. Voilà, c'est ça. Donc c'est en 1 Timothée au chapitre 2. Alors déjà, avant de parler sur de la femme, je vais quand même juste m'arrêter sur quelques petits versets et faire des commentaires rapides qui peuvent être quand même assez intéressants. Je vais juste vous lire donc au chapitre 1, au verset 15. « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Donc ça, c'est une chose juste intéressante. Là, je vous apporte pas un scoop, on est d'accord. Mais on voit que Paul, quand même, sur la fin, il met une insistance sur quelque chose qui est tout simple, c'est que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Je dis ça pourquoi ? Parce que des fois... on comprend pas ce que Dieu fait ou ce que Dieu ne fait pas dans plein de sujets dans la vie, dans notre vie, dans la vie des autres, et du coup on perd de vue que Jésus il est venu pour sauver les pécheurs. Et on croit que par exemple Dieu il est méchant, il est pas juste, en fait finalement il a fait son choix, que ça il m'arrive ça ou il arrive ça à telle personne, mais parce que Dieu finalement il est pas si juste ou pas si bien que ça. Non, cette parole, elle est entièrement digne d'être reçue, et c'est très simple ce qu'il dit. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Deux vérités. Une, tous sont pécheurs. Deux, il est venu pour les sauver tous. Ça, c'est important. Autre chose, dans le même topo, au début du chapitre 2, il est dit... Alors, je vais vous lire même le début tranquillement, parce qu'il y a d'autres choses aussi à dire. J'exhorte, chapitre 2, verset 1. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Les hommes, c'est pas les hommes, c'est les hommes. Hein, je veux dire, c'est pas que les mâles, c'est tout le monde. « Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Alors, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, ce qu'il est en train de dire là, il dit, priez pour les autorités et pour tous les hommes afin de vivre une vie paisible. Ça, c'est, on va dire, une forme de commandement général qu'il donne à tous les chrétiens. Et lui-même, est-ce qu'il a vécu une vie paisible? Non. Donc, peut-être que déjà, quand, vous savez, quand on se dit, voilà, nous, on veut vivre l'Église des Actes. Nous, on veut vivre l'engagement de l'apôtre Paul. On ne dit pas l'apôtre Pierre parce que comme on sait qu'il a eu 2-3 problèmes où il a été un peu moins à la fête, l'apôtre Paul c'est mieux, là c'est le top, il y a pas une égratignure. Ok, c'est bien, ben, lui-même il dit priez pour tous les hommes, priez pour les autorités afin d'avoir vivre une vie tranquille. Il dit pas vivre une vie persécutée comme moi, et en même temps il dit ceux qui veulent vivre pieusement ben, seront persécutés. Avec ça, débrouillez-vous. Ce que je veux dire, c'est que chacun dans sa vie et dans son époque, est appelé peut-être à des choses aussi qui sont plus ou moins différentes. Mais en tout cas, en généralité, priez pour tous. Parce que vous savez, même dans la persécution, vous allez vivre une vie paisible si vous priez pour les autorités plutôt que de lutter contre. que ça soit par les critiques, par une attitude, par une désobéissance, etc., en fait. Et autorité dans la société, on va dire, mais après, pareil dans l'église, pareil à tout, dans tout niveau, quoi. Je veux dire, à votre boulot ou n'importe. Donc voilà. Et ensuite, donc, c'est ça. Donc cela est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur, donc de prier de ceci, de cela, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Là, pareil, insistance. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il veut amener tous les hommes à la connaissance de la vérité. Ça, c'est important de l'avoir en tête par rapport aux petites digressions que nous pouvons avoir dans nos réflexions. Donc maintenant, par rapport aux femmes, je vais vous lire le passage et vous dire ce que j'ai à en dire en ayant pour but de juste nous aider à prendre les choses comme elles doivent être prises. Donc, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, verset 9 du chapitre 2 de 1 Timothée. Donc, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Bon, là déjà, on dit, attends, c'est-à-dire que, de quoi parlons-nous ? Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà. Donc déjà, premièrement, comment est-ce que je comprends ça? Je comprends ça comme une comparaison. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul veut mettre en avance? Si vous voulez suivre Dieu, être des femmes de Dieu, être des femmes pieuses, la priorité dans votre vie, ou la chose qui est peut-être à mettre plus en avant, ou à s'attacher, ou à être concentré sur... c'est quoi? C'est de se parer de bonnes œuvres. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas faire des tresses, avoir de l'or, des perles, des habits somptueux, je sais pas quoi. Ça veut pas dire qu'il faut pas ça, en fait. Mais lui, il joue sur un comparatif pour montrer que, après, peut-être que l'église, en l'occurrence d'Éphèse, qui était dirigée par Timothée, peut-être qu'il y avait des... j'en sais même rien du tout, moi. Est-ce qu'il y avait des problèmes de... On fait la compète entre copines, qui est-ce qui a les tresses les plus jolies, les plus beaux habits, ou j'en sais rien, mais en tout cas, peu importe. Je pense que ça, c'est pas un absolu qu'il est en train de poser. C'est une comparaison pour dire, concentrez-vous sur les œuvres bonnes, parce que c'est ça qui plaît à Dieu, en fait. C'est ce qui sous-entend que pour une femme, les choses citées précédemment peuvent les écarter de rechercher à vivre peut les écarter. Ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut dire simplement que voilà, une femme, elle aime bien être coquette, vue, machin, nanana, mais tirée à l'excès dans une compétitivité, etc., etc. Et bien en fait, on s'intéresse à ça plutôt qu'à ce à quoi on doit s'intéresser. Donc c'est juste en comparaison et voilà. Alors la suite est beaucoup plus embêtante. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Première chose, avant d'expliquer mieux, mais je vais dire la suite. Toutes les traductions, en fait, mettent en avant le fait que donc c'est écouter, on va dire en silence effectivement, l'instruction dans l'Église et de respecter l'ordre qui est dans l'Église, en fait, précisément. Maintenant, on va y revenir, mais je vous lis quand même la suite parce que faut autant lire tout d'un coup, comme ça, on passera à autre chose. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Je ne vois pas d'explication autre à trouver que ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça que dans nos églises, dans la plupart des églises, les personnes qui sont en responsabilité sont des hommes, et surtout ceux qui enseignent la parole de Dieu à l'assemblée, à l'ensemble, ce sont des hommes. Donc là, il n'y a pas de grande interprétation à trouver. C'est tout. C'est comme ça. C'est un ordre, c'est une manière de fonctionner qui est ainsi. Par contre, ce qui nous embête le plus, c'est quand même l'histoire du silence. Alors, je vous lis quand même la suite aussi, parce qu'on n'est pas jusqu'au bout. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. On va y revenir à tout ça, vous inquiétez pas. On a des choses à dire. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Le dernier verset, commentateurs sont d'accord pour dire, c'est un des plus difficiles à comprendre du Nouveau Testament. Il y a plusieurs interprétations qui sont données. Moi, je vous dirai qu'est-ce que j'en pense. Voilà, je pense que c'est pas si compliqué que ça, mais en tout cas, voilà, il se revoit. Voilà, je pense que c'est pas si compliqué que ça, mais c'est vrai que à première lecture, c'est quand même extrêmement ambigu. Donc, on va revenir sur nos histoires, et premièrement sur le terme silence qui est utilisé deux fois ici. Donc, la question évidemment qui se soulève à nous, une fois que j'ai fait le préambule, je vous ai dit que pendant des siècles, le rôle, la place de la femme était une certaine, aujourd'hui c'est autre chose, et donc, quand on le lit avec la vision d'aujourd'hui, ben, on dit, c'est quoi ce misogyne, ça va pas, machin, premièrement, le mot silence ici, d'ailleurs, dans un certain nombre de traductions, c'est pas traduit par silence, c'est traduit par rester tranquille ou paisible. Mais il veut dire quand même silence, je dis pas non plus. Par contre, ce qui est très intéressant et qui me donne de l'eau à mon moulin, c'est qu'en fait, il y a un autre mot pour silence qui est utilisé dans le Nouveau Testament et dans le grec, qui est utilisé par ailleurs, et qui lui, par contre, il veut dire silence. Il veut pas dire autre chose. Il veut pas dire tranquille. Ce mot-là, en grec, c'est sigao. S-I-G-A-O. Donc il est utilisé, une paire d'autres endroits. Et là, par contre, c'est vraiment silence. Mais ici, c'est pas silence dans le sens juste on coupe le son de la radio. C'est plutôt paisible, tranquille, etc. Voilà. Alors, voilà, c'est ça. Donc, ce terme aussi, donc silence ici, il est en deux mots, et les deux parties du mot, la première partie, ça parle de fermeté, et la deuxième partie, ça parle de miel. Voilà, pour votre gouverne, tout simplement. Donc maintenant, la chose qui est ici intéressante, c'est premièrement, donc on parle pas d'un silence absolu comme l'autre terme le donne. Néanmoins, vous allez quand même me dire, il est quand même dit donc d'être dans le silence, que la femme demeure dans le silence. Et l'explication, parce qu'il faut tout lire, donc l'explication, c'est car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. En fait, ce qu'il faut comprendre avec ça, premièrement, c'est, et à chaque fois quand il est parlé du rôle de la femme, de la place de la femme, ou quand il y a des passages dans ce terme-là, en général, l'apôtre Paul, parce que c'est en général lui qui en parle, fait systématiquement référence à Genèse 2. L'homme a été créé avant la femme, c'est l'ordre de Dieu donc, mais l'ordre dans le sens de chronologique, si vous voulez, et donc c'est l'ordre de fonctionnement que Dieu a mis. Tout simplement. Deuxièmement, ici, vous allez me dire, oui, d'accord, mais enfin, quand même, il est en train de mettre sur les épaules de la femme le péché. Enfin, c'est l'impression qu'on a, puisqu'il est en train de dire, la femme, donc, elle a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. Le même Paul, par ailleurs, et à plusieurs reprises, notamment dans Romains, dans un livre, comme on a dit, de théologie pure sucre, il impute de manière absolue le péché à qui ? À Adam. Il fait aucune référence, quand il fait de la théologie pure, au fait que la femme, elle est fautée ou quoi que ce soit. Là, on n'est pas dans un livre de théologie pure. Même si c'est quand même un livre doctrinal, c'est quand même une lettre qui s'adresse à un pasteur avec des généralités. Et je pense que l'apôtre Paul, ici, parle de choses qui sont vraies, mais de généralités. Et quand il parle des choses dans l'absolu, le péché, le responsable, c'est Adam. Vous me parlez même pas que c'est la femme qui a été séduite, c'est Adam. Le péché, voilà, il se transmet par Adam. C'est tout. Ne venez même pas discuter d'autre chose. Ça, c'est la théologie, c'est l'absolu. Maintenant, ici, il est en train de parler d'autre chose. Il est en train de parler de la place, du rôle, etc., du fonctionnement de la femme, en l'occurrence dans l'Église et autres. Et là, il revient au départ. Adam a été créé le premier. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il fait référence à cette transgression ? Il fait référence à cette transgression, pourquoi ? Parce que moi, de mon point de vue, je pense que Dieu, même quand il dit l'homme doit être en position d'autorité, l'homme doit être le décisionnaire, Et donc dans l'Église, l'homme doit être celui qui enseigne la parole de Dieu. Je pense que Dieu ne le fait pas de manière arbitraire. C'est-à-dire que je pense qu'en Dieu, il y a un sens. Et le sens qu'il y a en Dieu, c'est que moi, je suis incapable de l'expliquer, mais dans la structure de l'âme d'une femme, ben, peut-être qu'il y a une forme de, on va appeler ça une point de faiblesse ou ce que vous voulez, qui fait que le diable est allé séduire Ève et pas Adam. Et en même temps, je me dis, je pense que s'il avait voulu séduire Adam, il aurait trouvé les moyens de le faire tomber pareil. Mais simplement, dans la structure d'âme, peut-être qu'il y a une chose qui fait que... Voilà. Qu'est-ce que je constate quand je vois les femmes autour de moi? Et quand je vois comment est-ce que je fonctionne moi, par exemple, en tant qu'homme? Et là, ce que je suis en train de dire, c'est des généralités. Je vois qu'une femme, elle a beaucoup plus de mal qu'un homme, ce qui ne veut pas dire qu'un homme ne l'a pas, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas me trouver des contre-exemples, parce que vous en trouverez. Parce que quand on parle de généralité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en généralité, un homme, il est comme ça. En généralité, une femme, elle est comme ça. En généralité, un homme, il bricole. En généralité, une femme, la fille, elle joue à la dinette. Ben, des fois, vous allez voir l'inverse. Et c'est pas pour ça que dans leur gène, l'autre, il est homosexuel ou je sais pas quoi. C'est qu'on est tous différents et que c'est une généralité. Dans cette généralité, des fois, il y a des gens qui ont des tendances un peu autrement et ça fait pas qu'ils sont pas ce qu'ils sont. Hein? Donc ici, je dis ça pour ça, oui, que ce sont des généralités et que dans la généralité de fonction de la femme, eh ben, il fait appel au fait qu'elle a été séduite parce que peut-être dans la structure d'âme de la femme, il y a un truc qui fait que, il y a une faiblesse qui fait que ce n'est pas bon, peut-être, qu'elle soit dans la position de décision. Et quand je regarde comment est-ce que les femmes fonctionnent, je pense qu'elles ont beaucoup plus de problèmes et de mailles à partir avec le fait de faire des choix que les hommes. Est-ce à dire que les hommes n'ont aucun problème et sont des super champions dans les prises de décision? Pas du tout. Combien de femmes se plaignent de leurs maris qui sont lents à la décision, voire ils prennent jamais des décisions? Ça arrive, etc. Mais dans le fonctionnement de base, je pense que généralement, voilà. Je prends un exemple, vraiment, celui-là, il est pas cher. Hein, je vous le vends pas cher. Hein. Par exemple, pour s'habiller le matin, moi, je réfléchis pas une demi-journée pour comment est-ce que je vais m'habiller demain matin. Une femme, et c'est pas une critique, je veux dire, mais on est fait différemment, on s'en fiche, et c'est une généralité. Vous allez me trouver des femmes qui vont prendre une jupe ou un pantalon, un haut, un machin, c'est sur la chaise, c'est prêt pour demain, elles ont pas... Et puis il y en a d'autres, elles passent une demi-journée de prière pour savoir comment elles vont s'habiller demain. Donc, qu'est-ce que je vois là-dedans? Je vois, par rapport à moi qui suis un homme, une forme de faiblesse dans la prise de décision. Et quand vous êtes en position d'autorité, vous avez des décisions à prendre, pour vous et pour les autres. Donc, qui paraît dans sa structure le plus apte à le faire? Apparemment, l'homme. Ensuite, dans qui est la femme et dans ce qu'est la vie de la femme, avant qu'on invente la pilule, le machin, le truc, le ceci, le cela... dans la vie de la femme, à un moment donné, vous avez les menstruations, qui fait que, même psychologiquement, on n'est pas comme le reste du temps, mais vous avez à prendre des décisions et à prendre des responsabilités de la même manière quand vous avez vos menstruations que quand vous les avez pas. Les hommes, ils ont pas ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que après, il y a évidemment... évidemment, tranquille, je veux dire, il y a quoi? Il y a quand... Quand elle est enceinte... Ça dure quand même un petit moment, ça change beaucoup de choses. On peut pas, voilà. Après, vous avez des enfants, c'est bizarre. Les femmes, tout naturellement, elles prennent en charge l'enfant de suite. Alors que les hommes, qu'est-ce que disent les femmes? Oh, moi, je l'entends pleurer la nuit, lui, il dort comme un loir. Moi, je sais pas. Moi, j'écoute. Hein. J'entends. Je pense pas que ce sont des menteuses. Voilà, je veux dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre structure d'âme, l'un et l'autre, on est fabriqué pour des choses différentes. Mais comme aujourd'hui, depuis un siècle et demi, on fait pour des raisons bonnes, des raisons moins bonnes. Il y a un peu de tout là-dedans, je veux dire. Hein. Il y a des torts, il y a des raisons, il y a des raisons bonnes, des raisons moins bonnes. Il y a une mauvaise aussi gestion. De l'autorité par ceux qui sont en autorité et donc la plupart des hommes depuis des siècles. Il y a plein de choses. Il y a même la production au travail. qui fait que voilà, la femme avant, elle pouvait, elle était à la ferme dans un monde rural, elle pouvait participer au travail de la ferme, et puis quand elle avait ses enfants, elle s'occupait des enfants, et elle s'occupait plus de ça, et ceci et cela. Et puis après, ben on fait pas ça. C'est, comme on dit, de la révolution industrielle au 19e siècle, on est dans des usines, le travail il est autrement, on a besoin de main d'œuvre, on est dans une expansion énorme, et on a besoin de beaucoup de main d'œuvre et de faire aussi travailler des femmes qu'on faisait peut-être travailler avec plus de parcimonie avant, etc. Donc genre, la réalité, elle est différente, elle change. Et après, on doit se débrouiller avec ça. Mais par contre, ce qu'on a à pas perdre de vue, c'est quoi? C'est qu'un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, et que si dans l'Église, c'est l'homme qui doit enseigner la parole de Dieu à la masse, ça ne bouge pas. Et si et une femme, elle a juste à pas perdre de vue qu'elle est une femme et que sa place de base structurellement, elle est là et elle est pas là. Et est-ce que ça veut dire qu'elle va pas travailler? Est-ce que ça veut dire qu'elle va pas ceci et qu'elle va pas cela? Non. Et en même temps, chacun fait les choix qu'il a à faire là-dedans. S'il y en a qui veulent faire plus ceci ou plus cela ou moins, chacun c'est son problème devant Dieu. C'est la vie dans le couple avec l'autre. C'est enfin peu importe, je veux dire. Mais par contre, ce que Paul il est en train de dire, il est en train de dire quelque chose de très simple. Il y a des hommes, il y a des femmes, et on n'est pas fait pour la même chose. Et je vous le replace dans le contexte. Et une raison, deux raisons. Une, c'est que Dieu a fait un ordre qui est le sien, et il a des raisons qui sont dans notre structure d'âme. Et ce que je dis là, je pense que ça a du sens. Tout simplement. Même si on peut le prendre, voilà. Parce qu'en fait, en général, on l'apprécie pas parce que, d'abord, on entend beaucoup d'autres choses dans le monde dans lequel on vit. Et deuxièmement, ben, on est dans un contexte où, ben, la réalité du contexte dans lequel on vit, se calque beaucoup moins avec ce que Paul dit ici. Et pourtant, la réalité, elle reste là. Je veux dire, là, dernièrement, j'écoutais les collègues au travail qui parlaient. Il y en a une qui parlait de sa petite fille, qui a 3 ans, 4 ans, je sais pas. Elle disait, mais en fait, ma gamine, elle s'est changée les enfants. Et l'autre, elle lui dit, ben oui, c'est une fille, les garçons, ils sont pâteaux si tu leur mets un truc, un machin, un truc. Et puis il y a une autre fille, elle dit oui, mais non, en fait c'est tout pareil, machin. Non, elle disait oui, non, mais c'est elle a dû te voir faire. L'autre dit mais qu'est-ce que tu veux qu'elle m'ait vu faire? Je vais changer, elle me voit pas les enfants, elle voit pas le faire quoi. Juste en gros, c'est inné en fait, tout simplement. Mais juste, on est dans un monde qui a tendance à rejeter un peu ces lignes-là. Et lui, il les remet, voilà. Donc maintenant, le verset qui est compliqué, c'est verset 15. « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » Donc le problème avec ce verset, c'est déjà une, à qui ça s'adresse. Est-ce que c'est les femmes en général ou est-ce qu'il est en train de parler de Ève? Donc différentes théories là-dessus. Alors, il y a une théorie qui est de dire ça parle d'Ève. Et en fait, Ève, en fait, elle apporte le salut dans l'humanité dans le fait qu'elle apporte ben, forcément la naissance, et puis à un moment donné, de sa descendance, comme il est dit en Genèse, c'est de sa descendance que Christ va venir et va écraser la tête du serpent. Donc, il y en a qui vont interpréter ça de cette manière-là. Ça a du sens. Moi, personnellement, je le vois pas forcément trop comme ça. Je pense qu'en fait, ce verset-là, d'abord, il parle pas de salut. Quand il dit sauver, je pense que ça parle pas de salut en termes de salut spirituel, éternel, etc. Pour moi, je pense que c'est plutôt salutaire au quotidien pour la femme en général de fonctionner selon ce qui est écrit au-dessus. Et alors vous allez me dire, oui, mais il est en train de parler d'enfanter, d'être mère, de ceci, et toutes les femmes ne le sont pas. Et là, je reviens à mon alinéa précédent, il est en train de parler de généralité. En général, une femme, elle va être mère, elle va avoir des enfants, et patati et patata. Et donc lui, il explique que fonctionner dans ce pourquoi généralement une femme est faite est salutaire pour elle, tout simplement. C'est une forme de, on va dire, de conseil en amont. Après, vous êtes célibataire. Après, c'est intéressant parce que le même Paul, il va dire, je préfère qu'on reste comme dans l'état où je suis moi. Bon, ben alors, c'est pas d'être mère qui va la sauver si elle reste comme toi. Puisque toi, t'es célibataire, Paul. Donc, tu t'adresses aussi aux célibataires. et qui ne vont pas avoir d'enfants et qui ne vont pas être sauvés en étant mère. Donc il faut bien qu'il y ait une cohérence dans ce que dit. Parce qu'en plus, c'est la même personne qui écrit les choses. On ne peut même pas dire là c'est Paul et là c'est Pierre et là c'est Luc et là c'est machin. C'est le même. Donc si là, il n'y a pas une cohérence dans ce qu'il dit, lui, il dit, c'est pas la peine, quoi. Donc pour moi, la cohérence, elle est qu'ici, il parle en généralité, et en généralité, ben voilà, les grandes lignes générales, c'est ça, et c'est salutaire, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je le vois, tout simplement. Donc le chapitre des femmes, est-ce que vous avez une question, à la limite ? Je sais pas. Nouveau de l'autorité, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc du fait que donc si elles peuvent diriger une société, elles peuvent diriger une église, elles ont les capacités, et donc le fait que l'enseignement soit spirituel. Ouais. Ouais, ouais, ouais. 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 Moi, je pense que c'est même pas ça. Non, je pense que c'est même pas ça. C'est simplement ce que je disais là, c'est que Dieu a mis un ordre dans l'humanité. C'est que l'homme en général doit fonctionner sur l'ordre de prendre les décisions, d'être en autorité de ceci, de cela. La femme pour faire plutôt d'autres choses. Ce sont des généralités. Aujourd'hui, on est dans une société où c'est comme c'est. Est-ce que c'est forcément bien qu'il y ait des femmes chefs d'entreprise ? J'en sais rien. Quand je lis ça, je me dis que c'est pas le mieux. Est-ce que pour autant c'est un péché ? Pas forcément. On vit chacun dans la société dans laquelle on est. On a les histoires de vie qu'on a aussi. Voilà, tout simplement. Et par contre, si l'autre point important sur ce que tu dis, c'est le point, c'est ça, c'est capacité. On argumente souvent pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de parité, de machin, de ceci, cela, mais il faut qu'il y ait la parité, les femmes, machin, autant, pourquoi ? Parce que la capacité. Mais moi, je veux vous dire, il faut pas la parité. Il faut qu'il y ait plus de femmes en position d'autorité que d'hommes. Elles sont plus intelligentes que les hommes. À l'école, elles travaillent mieux. En général, elles ont des diplômes, elles ont plus de diplômes que les hommes. Si c'est la capacité, elles doivent être. Mais c'est même elles qui doivent diriger la société. Mais Dieu s'en fout de la capacité. Il est en train de dire l'ordre c'est ceci. Je vous prends autre chose, une forme de parallèle qui évidemment n'a rien à voir. Dans la Trinité, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont Dieu. Il n'y a pas de différence de capacité. D'accord ? Jésus est soumis au Père. Le Saint-Esprit est soumis au Fils et au Père. Il n'est pas moins capable. Il n'est pas moins Dieu. C'est simplement l'ordre de Dieu. De la même manière, dans quelque chose qui est très différent, c'est l'ordre de Dieu. C'est tout. C'est l'ordre de voilà, et l'ordre et la manière et le dispatching des rôles, tout simplement. Et encore une fois, on est dans quelque part dans une généralité. Et ceux qui pouvaient être appliqués quelque part stricto sensu pendant 19 siècles, aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué. Enfin voilà, c'est pas voilà. Enfin, mais c'est même pas plus compliqué. C'est on vit une autre époque. Point. C'est tout. On vit dans une réalité dans la société qui n'a jamais eu lieu. C'est tout. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est comme si vous disiez, je vais vous faire un truc. Pourquoi les femmes ont commencé à beaucoup plus travailler, à prendre des autorités et tout ? Parce que pendant la Première Guerre mondiale, les hommes sont allés à la guerre. Ça a été une boucherie. Il y en a eu beaucoup moins. Pendant qu'ils étaient à la guerre, qui est-ce qui s'occupait de tout ? Et notamment du travail, des champs et tout. C'était les femmes, d'accord. Donc, il fallait quoi ? Prendre à la lettre ça et pas travailler le champ ? Bon, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. La société a suivi le cours. Après, il y a des gens qui, philosophiquement, des fois, très certainement orientés par des esprits pas forcément géniaux, prennent des décisions qui vont accentuer dans des directions qui sont pas forcément celles que Dieu estime le mieux. Mais voilà, c'est tout. Et je pense, voilà, on a besoin de pas perdre de vue qu'un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, et il y a des lignes directrices générales. Et en même temps, on vit dans ce qu'on vit, quoi. On va pas dire aujourd'hui, vous êtes des femmes donc vous allez pas travailler, vous vous mariez, vous trouvez un homme qui gagne un salaire double ou triple, et puis voilà. Et puis vous faites 5, 6, 7, 8, 10 enfants. C'est la volonté de Dieu. J'en sais rien, moi, si c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous en savez? Je ne sais pas. Oui. Ben oui, mais en Genèse. Et pendant des siècles, c'était ça. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte qui n'est pas le même. Et après, si on a à cœur de se mettre dans cette disposition-là, il n'y a pas de problème. Que ça soit devant Dieu. Mais allez le faire avec un gars qui gagne le SMIC, ben, vous allez souvent taper à ma porte pour que je vous donne des pattes. Donc après, il faut se poser un peu la question. Surtout si vous avez combien? 5, 6, 7 enfants? Avec un SMIC pour la famille et les allocations familiales? Ok. D'accord. Moi, pas de problème. Hein. Chacun vit ce qu'il veut. Si ton mari, il est médecin, il est avocat, il est ingénieur et il gagne des 5 à 10 000 euros par mois, mais même si t'es pas chrétienne, pourquoi tu vas travailler pour t'occuper? Je veux dire, tu vas travailler pour t'occuper. Et mais moi, j'en vois des comme ça. Elles sont femmes de ménage. Honnêtement, je pense que leur mari, il a très bonne situation. Quand je vois la voiture à laquelle elle arrive, je m'en payerai jamais une comme ça. Enfin, d'abord parce que j'ai pas envie d'en acheter une comme ça, mais voilà. Mais parce que elle occupe sa vie comme ça, elle a pas envie d'avoir 10 enfants. Là, je suis pas en train de parler de chrétienne, bien sûr. Mais je veux dire, même sans être chrétien, voilà. Si évidemment, s'il a un salaire de temps, il y a pas de problème. Mais quand c'est autrement, voilà. Sinon, après, c'est pareil. On va jusqu'au bout des choses. Pourquoi est-ce que les chrétiens ils font pas 5 à 10 enfants aujourd'hui? Alors ils font 1 ou 2 enfants, ben alors ils pêchent. Ils prennent la contraception et tout, donc bon ben ils pêchent. Ils ont pas d'enfants. Pourquoi? Ben je m'en fous moi. C'est la nature. C'est Dieu qui a fait la nature. La femme elle est féconde. Elle est encore féconde à 50 ans. Ils veulent pas d'enfants. Ils pêchent. Non mais si on veut aller au bout des choses, en fait, on devient débile. On a besoin de réfléchir avec nos têtes et de pas perdre de vue. Oui d'accord, les généralités. La place de l'homme est là, la place de la femme elle est là. Dans une église, on fonctionne comme ça. En général, effectivement, Dieu aimerait bien que ceci, cela. On connaît des gens tous célibataires, 50 ans, grosse responsabilité, même dans l'administration publique de l'État. Je cite pas de nom. Faut quoi? Qu'elle démissionne, qu'elle trouve absolument un mari, qu'elle fasse des gamins, ou elle aurait dû faire ça il y a 20 ans, il y a 30 ans? En même temps, avec l'argent qu'elle gagne, même peut-être qu'elle soutient l'église dans laquelle elle est. Enfin, là, je parle de quelqu'un que vous connaissez. Hein. Je pense que vous savez de qui est-ce que je vous entends. Mais voilà, pareil. Et voilà, je pense que... Et un truc qui est intéressant, c'est que Paul, ici, dans ce qu'il dit là, par exemple, et à d'autres endroits, et on va voir autre chose, en tant que pasteur, dirigeant, etc., il donne des généralités de la Bible, et après... Faites vos choix, faites ce que vous avez à faire. Enfin, voilà, je veux dire, je suis pas là pour m'ingérer dans la vie privée des gens. Tout comme ce que je viens de dire tout à l'heure, l'autre, vous le notez parce qu'il y a un problème, mais c'est un frère, hein, c'est pas un ennemi. Hein. Le but, c'est de... Voilà, on est dans un sujet un peu différent, mais voilà. Et au moins, enfin, je pense, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, je pense que ce que j'explique ici a du sens. Et a du sens de Genèse à Apocalypse et dans le contexte dans lequel on est. Voilà. Donc, mais après, oui, on peut se remettre en question, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, sur la femme, on va s'arrêter là, je pense que ça suffira. Je voulais voir, alors attends, lui, il est où? C'est toujours dans Timothée. Je voulais voir certaines autres choses. Ah oui, ben, tiens, on va continuer. Ouais, c'est encore les femmes, mais c'est pas grave, c'est rigolo. Timothée, chapitre 5. Je suis là, on va le voir parce que lu en première lecture, c'est bizarre. Ça peut paraître bizarre, donc je veux vous donner une explication qui a du sens parce que j'aime bien donner du sens aux choses, sinon c'est dommage. 1 Timothée 5:12, je crois. Oui. En fait, il est parlé du alors tout quasiment 1 Timothée chapitre 5, ça parle des veuves. Pareil, là quand je parle de généralité, de règles qui sont pas stricto sensus. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Donc, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Ah, pourquoi? Il y en a qui sont pas veuves, d'accord. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Donc déjà, une veuve qui a des enfants et des petits-enfants, pour lui, déjà, elle est plus veuve. Bing. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu, et persévère nuit et jour dans la supplication et la prière. C'est une manière de parler. Je pense qu'elle fait autre chose que prier nuit et jour. Là, c'est pareil. Je veux dire, si on veut être stricto sensus, elle fait plus la soupe, elle mange pas et elle meurt de faim au bout de 3 jours. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors écoutez ça, qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, donc pour être une veuve dans l'église, à l'époque de Paul, on inscrivait sur un registre. Il y a des gens qui étaient considérés comme étant des veuves, les veuves officielles que l'église va soutenir, et les autres, voilà, vous avez de la famille, vous machin, vous débrouillez, ça ne me regarde pas. Regardez ça, donc qu'une veuve qui est inscrite sur le rôle, donc en fait, toi, Timothée, pasteur, que tu vas t'en occuper avec l'église, elle n'est pas moins de 60 ans, et à l'époque, 60 ans, c'est déjà pas mal quand même, hein. Je pense que, hein, d'accord, je pense que ces gens pouvaient mourir bien avant, elles pouvaient être veuves bien avant, enfin, voilà. Donc, qu'elle n'est pas moins de 60 ans, ce qui veut dire que moi, je pense que si on voulait faire la même chose, on mettrait pas 60 ans, on mettrait peut-être autre chose. Pareil, 21e siècle, on mange bien, on est soigné, on vit jusqu'à 95 ans, je mettrais pas 60, je mettrais plus. Et encore, même en mettant plus, je dirais c'est du cas par cas. Parce que je vous dis un truc, on va dire à 70 ou 80 ans, les gens, ils ont pas le même âge. Hein. Sur la carte d'identité, oui, mais ailleurs, non. Donc, peu importe. Quelle était femme d'un seul mari? Donc c'est pareil, il met des généralités. Normalement, voilà, il y a pas de divorce dans l'église, tu es pas remarié, tu machin, tu sais. En même temps, on sait ailleurs que s'il y a eu adultère et que c'est l'homme qui est parti, etc. Enfin, même s'il y a eu adultère, d'abord tu peux foutre ton mari dehors et tu peux te remarier déjà pour commencer. Donc là, c'est pareil, ça rentre pas dans ce qu'il vient de dire là. Il donne des généralités. Parce que quand vous mettez des règles, une règle, comment dire? Vous savez, à une époque, je crois que c'était au Moyen-Âge, je ne sais pas trop quand, il y avait des religieux, je crois notamment français, catholiques, je crois que c'était notamment les jésuites qui étaient comme ça, on appelait ça des casuistes. Vous savez ce que c'était des casuistes? C'était des gens qui coupaient les cheveux en quatre. Et qui, en fait, quand je dis qu'ils coupaient les cheveux en quatre, c'est en fait, ils essayaient, et d'ailleurs les juifs faisaient pareil à l'époque de Paul et avant, ils essayaient de prendre tous les cas de figure. Essayer d'aborder tous les cas de figure qu'il pouvait y avoir dans la vie et y donner une réponse en utilisant la Bible. Hein. Et donc, voilà. Et donc, on est là et on coupe les cheveux en quatre, etc., etc. Et en fait, quand on fait ça, ben, on prend des grandes lignes et on applique des principes, mais de manière pas du tout mis sur mesure pour chacun, en fait. Et en fait, on fait mal aux gens. Parce que les casuistes, ils n'ont pas forcément une très bonne réputation. Et là, on lui dit non, ils donnent des généralités. Mais après, ces généralités, comment vous les appliquez? Vous les appliquez sur du cas par cas. Vous les appliquez en réfléchissant. On n'est pas à la même époque. Je peux vous assurer que 21e siècle et l'époque de Paul, on parle pas de la même chose. Et juste à commencer, une personne à 60 ans aujourd'hui, à 60 ans à l'époque, on parle pas de la même personne. Donc d'ici, pour moi, déjà, c'est pas 60 ans. Ça serait plus. Et encore, ça serait au cas par cas. Donc, alors oui, la suite. Donc, qu'elle soit, alors, donc, elle a été mari d'une seule femme, mari d'une seule femme, ouais. Qu'elle a été femme d'un seul mari, plutôt. Ça sera mieux. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants. Alors, pareil, vous allez dire, ben, si elle a pas eu, elle était stérile, elle a pas eu d'enfants. Ah, ben, écoute, hein, t'es veuve, hein, tu te débrouilles. Et je pense que c'est pas ce que veut dire Paul. Il veut donner des règles juste pour l'aider l'autre à pas se faire avoir, en fait. Et à ce qu'on soit pas là à dépenser de l'énergie pour des gens à qui on ne doit pas donner une aide parce qu'ils ont d'autres secours ou c'est pas légitime ou etc. En fait, c'est ça. Mais quand vous mettez des règles, vous êtes obligé de mettre des règles. C'est un peu général, quoi. Ça brasse large et ça ne veut pas dire qu'il faut être stricto sensu dans l'application. Donc voilà, la suite. Qu'elle soit recommandable, de bonne œuvre, qu'elle ait élevé les enfants, exercé l'hospitalité, laver les pieds des saints. Bon, c'est une manière de parler, hein. C'est bon, elle n'a pas sa bassine. Secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les veuves, les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier. et se rendent coupables en ce qu'elles voient leur premier engagement, en ce qu'elles violent leur premier engagement. Alors, je vais vous lire la suite pour rigoler, mais là, là où il y a une chose qui peut poser problème, on se dit, en ce qu'elle, alors, parce qu'en fait, on peut avoir tendance à faire mal le lien entre les deux versets. Elles sont jeunes veuves, elles cherchent à se marier, et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Et là, on a tendance à le lire en se disant, c'est quoi le premier engagement? À quoi on pense? À quoi vous pensez en lisant les deux versets, vous? Si vous pensez bien, j'explique même pas. Dites-moi. Ouais. Donc ce premier engagement, c'est quoi? C'est son premier mariage. C'est ce que vous comprenez. Non, mais c'est pas ça. Bah non, ça peut pas être ça. D'abord, pourquoi c'est pas ça? Quand vous lisez Romains chapitre 7 et qu'il explique le fait qu'on n'est plus sous la loi, qu'est-ce qu'il prend comme exemple, l'apôtre Paul? Ce n'est qu'un exemple, mais en fait, la manière dont il explique veut dire que c'est une évidence pour lui et pour ses lecteurs, comme si c'était une loi écrite, en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, nous sommes sous la loi dans le même sens que une femme, tant qu'elle est mariée à un mari, si elle va avec un autre, elle commet un adultère. Mais une fois que son mari est mort, elle ne commet plus d'adultère en allant avec un autre. Elle connaît pas l'adultère avec un autre, puisqu'en fait, il est mort. Donc, elle est veuve et elle va se remarier. Et Paul prend ça comme exemple pour expliquer notre attachement, ou plutôt notre détachement vis-à-vis de la loi, en expliquant qu'en fait, la loi, c'est le mari que nous avions et qui est mort. Donc, aujourd'hui, nous sommes veuves vis-à-vis de la loi et nous pouvons nous attacher à un autre qui est Christ. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'exemple qu'il prend, il est bien en train de dire que une femme qui est mariée, si elle va avec un autre, elle commet adultère. Son mari étant mort, elle peut se remarier avec qui elle veut. Donc, et il le présente comme étant une évidence pour lui et pour tout le monde. Donc si ici, le fait de se remarier alors qu'elle est veuve, ça signifie qu'elle est en train de se rendre coupable de son premier engagement, ce n'est pas cohérent. Puisqu'il est en train de dire qu'il n'y a aucun problème, et il le prend comme exemple pour expliquer quelque chose de théologique. Donc le premier engagement, c'est pas ça. C'est l'engagement vis-à-vis de rôle, d'être dans le rôle de veuve dans l'Église. Soit tu t'inscris sur la liste et tu es une veuve et tu veux l'assistance de l'Église, soit tu te cherches un mari, mais tu fais pas les deux. Et moi, je suis pasteur en autorité, je suis pas dupe. Et tu violes ton premier engagement. Et ton premier engagement, c'est pas ton mari. C'est le fait que tu es venu me voir pour dire je suis veuve, j'ai pas de moyens de subvenir, est-ce que l'Église peut m'aider? Vous comprenez? Ok. Pourquoi tu t'énerves? Pas besoin de s'énerver, tout va bien. Tout va très bien, moi ça va, hein. Oui, mais bien sûr, après, ils critiquent l'attitude qui va, enfin voilà. Et là encore, c'est pareil. Est-ce qu'elles n'ont pas le droit de se remarier? Aucun problème. Même à la fin de quelques versets plus loin, il va dire qu'elles se marient. Alors, d'un côté, je veux que tout le monde soit comme moi. Les veuves, si elles se marient, eh ben, elles n'ont pas à être sur le rôle. Mais à la fin, attends, il est en train d'expliquer que de se marier, de se remarier et tout, fait que bon, en plus, elles sont oisives, machin, enfin, je sais pas quoi, enfin, elles ont pas un bon état d'esprit, on va dire. Mais à la fin, en gros, presque, allez, qu'elles se marient, c'est bon. Qu'elles se marient, qu'elles aient des enfants, ça les occupera, c'est bon, passons à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, bon, Timothée, c'était très sympathique, on s'est amusé. Ensuite, est-ce que sur Timothée, on veut voir d'autres bricolettes qui avaient du sens? Oui, une bricolette, 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. C'est juste par rapport à l'alcool, c'est une bricolette en passant, hein. C'est vraiment en passant. Verset 22, n'impose les mains à... Pardon, vous avez la référence, hein? C'est bon? 1 Timothée 5, 23, mais je vais lire le verset 20. N'impose les mains à personne à la précipitation, ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Très, très intéressant, ça c'est pareil. On prend ce verset, on peut aller le balancer, mais n'importe comment. Donc déjà, ne continue pas à boire que de l'eau. Deux choses. Mais vous allez voir, je vais vous prendre quand même à contre-pied. Hein. Parce que vous attendez à ce que je dise des choses et je vais peut-être en dire d'autres. Ça veut dire qu'apparemment, il buvait que de l'eau. D'accord. Et lui, il lui conseille de boire un peu de vin. Pourquoi il demande de boire un peu de vin? Nous sommes au 21e siècle avec de l'eau potable. Eux, ils sont au 1er siècle avec de l'eau avec de l'eau. Donc, quand vous buvez du vin à l'époque, et qui devait être, à ce qu'on en connaît, peut-être beaucoup moins alcoolisé qu'aujourd'hui, mais même s'il était alcoolisé, peu importe, c'était peut-être mieux pour son estomac, parce que lui, peut-être qu'il avait des diarrhées, parce qu'il avait bu de l'eau qui n'était pas potable. Ou, en tout cas, pas géniale. Vous comprenez ? Donc, d'une part, c'est vrai que ça, ce qui veut dire qu'en fait, des fois, j'ai entendu ça, et c'est vrai que ça paraît du sang au premier abord, mais finalement, c'est pas si absolu que ça. C'est vrai qu'on peut dire, ben en fait, ça veut dire que Timothée, il avait l'habitude de boire de l'eau. Donc finalement, ça veut dire qu'il faut pas qu'on boive de vin ou d'autres alcools. Mais en fait, dans le contexte de l'époque, c'est pas sûr que c'était simplement parce que c'était pas bien de boire de l'alcool. C'est peut-être plus parce que l'eau était pas si sûre que lui, ça y faisait des problèmes. Et donc, là, il lui dit, bois un peu de vin. Mais nous, encore une fois, on va l'appliquer dans notre contexte. Après, il dit quand même qu'il boit que de l'eau. Et puis après, on a d'autres éléments pour quand même comprendre que c'est pas génial de boire à grosse rasade. Hein? Mais de toute façon, dans la Bible, vous me trouverez pas que c'est interdit de boire un verre d'alcool, hein? Ou deux ou trois. Ça, vous le verrez pas. Je suis désolé. Par contre, ce que vous verrez, c'est ça qui est important, c'est ce que vous verrez, et bien des fois, c'est de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Ce qui veut dire qu'à la limite, quelqu'un qui est chrétien, qui veut boire son petit verre de vin, son demi de bière ou je sais pas trop quoi, ben, qu'il le boive à la maison, mais quand il est avec les frères et sœurs, qu'il ne boive pas, parce que je sais pas qui j'ai en face de moi. Par contre, à la maison, avec ma femme, on a envie de boire notre petit truc. Ben, nous, on le boit pas, hein, vous inquiétez pas. Hein. Enfin, vous inquiétez-vous, il n'y a même pas à s'inquiéter. Il n'y a même pas à s'inquiéter, je veux dire, à la limite. Mais je veux dire, il y a elle, il y a moi, on est d'accord, on est au clair, on ne se bourre pas le champignon. On boit nos petits verres à table, machin, on a nos habitudes ou je sais pas quoi. Ouais. Par contre, on est à la gape, on ne vient pas avec notre litron. On va au resto avec les frères et sœurs, peut-être qu'on va pas commander une 1664. Une 1664, une bière. Ou Garden, ou ce que tu veux, peu importe. Je sais pas, jamais bu de bière de ma vie. C'est un grand regret, j'en boirai au ciel. Je trouve que c'est joli, la bière, mais bon. Mais j'en ai jamais bu. Si, j'ai bu les demi de bière, mais c'est coupé avec la limonade, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous voyez, des fois, dans un sens ou dans l'autre, est-ce que c'est cohérent d'appliquer le verset parce que juste ça m'arrange, parce que moi, je suis, quoi, il faut pas boire une goutte d'alcool, donc là, boum, pam, je le mets sur la tête. Ben, étudie un peu plus et tu verras que c'est pas le meilleur verset pour défendre ton truc. Mais bon, voilà, après, moi, je dis pas qu'il faut qu'on chine, hein, les enfants, ça va, hein. Ensuite, c'est pas possible, on n'arrive pas à avancer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, est-ce que dans 2 Timothée j'avais quelque chose? Non, 2 Timothée je vais laisser tomber. Je vous ai dit les généralités. On va même pas s'arrêter sur un verset. Donc Tite, je vous ai dit que c'était écrit entre les deux. Tite, c'est là. Ah oui, si on va s'arrêter sur un truc sur Tite, par contre. Tite, donc c'était le pasteur en Crète. Et on va le lire tout simplement. Là, pareil, il y a aussi une discussion. Je vais vous dire ce que je pense, mais je vais vous montrer que c'est pas le texte qui, de manière absolue, me le défend. Donc, Tite, chapitre 1, verset 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, Tite, pardon. Timothée, j'ai dit, je vais pas m'arrêter sur des versets, je vous ai donné un petit peu de contexte, et puis, là, on a vraiment mangé le bénéfice, là. Donc, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque et ancien du coup, c'est la même chose, on comprend bien que c'est la même chose dans ce qu'il est en train de dire là, soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, donc c'est déconseillé, il n'y a pas de problème, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, modéré, etc. Non, je rajouterai une chose après sur Timothée, mais ce n'est pas grave. Donc ici, en fait, une chose qui est discutée par rapport à ce passage-là, c'est est-ce qu'il doit y avoir un pasteur dans l'Église ou est-ce qu'il doit y avoir un collège de pasteurs pour diriger l'Église ? Voilà. Et moi, je vais vous dire, que je crois qu'il doit y avoir un pasteur principal qui est un chef de l'Église. Par contre, je vais vous dire les deux mon capitaine. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un pasteur, effectivement, chef, mais il doit y avoir un collège d'anciens ou d'évêques ou de ce que vous voulez. Par contre, il ne doit pas diriger tout seul. Mais effectivement, il doit avoir une prééminence. Par contre, le passage ici, la question, c'est de dire « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Mais en fait, la manière dont c'est dit, ça peut aussi bien dire qu'il y en a un ou qu'il y en a plusieurs. Je veux dire, à partir de cette phrase-là, je ne peux pas savoir s'il lui demande d'en nommer un ou plusieurs par ville, en fait. Je ne peux pas m'appuyer là-dessus. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, c'est au singulier. Mais ça ne fait pas avancer chez public. C'est homme au singulier dans le sens, c'est l'homme que je considère pour savoir si je le mets dans tel rôle comme ancien. Mais ça ne veut pas dire que je vais en considérer qu'un seul pour chaque église. J'en sais rien, en fait. Donc ici, le texte, de mon point de vue, je ne vois pas comment, de manière absolue, ce passage-là peut me montrer qu'il doit y en avoir un seul. Par contre, il me montre qu'il y a forcément plusieurs. Parce qu'il faut nommer des anciens. Mais après, pourquoi est-ce que je crois qu'il doit y en avoir un qui est au-dessus de la mêlée et qui est un par église, etc. Je vous le fais très rapidement. Premièrement, on voit déjà dans tout l'Ancien Testament qu'à chaque fois, Dieu élève un homme en particulier et pas un groupe d'hommes pour diriger. Ensuite, on voit que par exemple dans Apocalypse 2 et 3, quand il y a les lettres aux sept églises de l'Apocalypse, il est dit écrit à l'ange de ceci, de cela, le terme par ange en fait c'est envoyé et je pense que ça parle des pasteurs de l'Église et à chaque fois il y en a un seul et jamais personne n'a écrit dans le Nouveau Testament une lettre à un ange. On est d'accord? Et le mot « ange », il veut dire aussi « envoyé ». Donc pour moi, c'est clair que ça parle de pasteur. Et donc, ça veut dire que là, par contre, dans l'Apocalypse, il y en a un pour chacune des églises. Et à aucun moment, on voit Paul ou un autre s'adresser, et là, notamment, dans les lettres pastorales, il s'adresse à chaque fois à quoi ? Timothée, à Tite. Pas aux anciens de Éphèse ou ceci ou cela. À chaque fois, il s'adresse à une personne. Donc tous ces éléments-là, sans être forcément des arguments absolus en eux-mêmes, m'amène vers le fait qu'il doit y avoir une personne qui est responsable au-dessus de la mêlée. Et néanmoins, je pense qu'il doit y avoir un collège d'anciens en dessous, plus ou moins grand, avec peu importe le fonctionnement de responsabilité. Après, c'est chacun qui voit comment est-ce qu'il doit faire. Et ça, c'est pareil, notamment dans l'Ancien Testament, on le voit. Alors, toujours pareil, ça peut pas être des arguments absolus parce que ce n'est pas l'Église. Dans le Nouveau Testament, au niveau de l'Église, on a assez peu d'éléments qui nous disent que... ce qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est Acte 15, le premier concile. Jacques dit la décision, mais ils sont plusieurs anciens, Pierre et les autres, à délibérer de la question de qu'est-ce qu'on doit faire avec les païens qui se convertissent. Mais il y en a un au-dessus de la mêlée, qui dit qu'est-ce qu'on décide à la fin. Mais il n'est pas seul à décider. Enfin, en tout cas, ils sont plusieurs à discuter de la chose. Jéthro, le beau-père de Moïse, lui dit, à un moment donné, tu peux pas diriger seul. Tu dois déléguer à d'autres. Et on voit des subdivisions dans les autorités de gestion, de jugement, etc., en Israël. Et encore une fois, c'est pas l'Église. Donc, j'applique pas. En tout cas, ça nous donne des indications. Donc, voilà sur ça. Qu'est-ce que je voulais revenir sur Timothée il est parlé des qualifications pour les anciens, enfin anciens, évêques, pasteurs, c'est la même chose, pour les diacres. Et à un moment donné, il parle des diacres et il enchaîne sur les femmes. Et il revient sur les diacres. pour moi, c'est clair qu'il est en train de parler de femmes qui sont diacres, et pas de femmes en général. Parce que dans son propos, il parle des diacres, à un moment donné, il passe aux femmes, et il revient aux diacres. Donc, c'est, pour moi, c'est très clair que là, il est en train de parler de femmes qui sont diacres, et qui peuvent l'être autant que les hommes. Chose très intéressante, quand tu parlais de qualité tout à l'heure, ou de compétences, les qualifications pour un évêque, pasteur, etc., ou pour un diacre, grosso modo, les mêmes éléments, les mêmes choses. Et quand on voit, c'est donc, c'est... Quand ils ont nommé en acte 6 les diacres, du coup, les premiers diacres, ils ont pris des hommes remplis de l'esprit. Et parmi ces diacres, on avait, c'est Étienne, je crois. Et quand on lit le discours d'Étienne avant qu'il soit lapidé, au niveau de l'enseignement, c'est assez correct ce qu'il sort. Donc, on voit quand même que, voilà, c'est pas juste, il y a eux qui enseignent, qui machin, qui ont autorité, et puis il y a les autres qui sont là pour faire le ménage, arranger les chaises et je sais pas quoi. Même si ils ont à le faire. On est bien d'accord. Et que la distinction, elle est quand même faite un tant soit peu, puisque quand, dans Acte, ils nomment des diacres, c'est pour distribuer la soupe et pour que, enfin la soupe, la nourriture, et pour que les apôtres s'attachent à l'enseignement de manière plus particulière. Donc la distinction, elle est vraie, mais des fois, elle est tellement absolue que, en fait, elle n'est pas correcte non plus, quoi. Donc, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, c'est pas mal. Et est-ce qu'on peut faire Philémon en 2 secondes? Oui, on peut le faire. On va... Alors, Philémon, je vais vous expliquer. Philémon, donc, c'est écrit en prison, donc, mais on l'avait déjà vu la dernière fois, à Rome, en même temps que Colosse, en 62. Donc, Philémon, c'est une personne, je l'avais dit la semaine dernière, qui est de l'église de Colosse, qui se réunit, en fait, chez lui. Donc, le pasteur de Colosse, c'est Epaphras, on en avait parlé, et l'église de Colosse se réunit dans la maison de Philémon, qui est forcément pas une petite maison, si l'église se réunit. Parce que, contrairement aux églises maison qu'on veut nous vendre aujourd'hui, ils étaient pas 20 dans une maison, ils étaient des églises, comme ils pouvaient être très nombreux, mais dans des grands domaines. Ici, il y a 3 personnages. Vous avez donc Philémon, Paul qui écrit la lettre, et le sujet principal de la lettre, qui est juste une page, en gros, c'est Onésime. Et Onésime, en fait, c'est qui ? C'est un esclave de Philémon, qui à un moment donné a dû certainement voler quelque chose, s'est enfui, a rencontré par un biais ou par un autre Epaphras et Paul, s'est converti, s'est retrouvé sous la houppette de Paul, et Paul écrit à Philémon pour lui dire « Je le renvoie vers toi pour qu'il te soit utile. D'abord, je dois te le... » Et c'est alors... si je vous le lis, ça serait pas mal. Alors, on va essayer de lire à partir de... Donc, en fait, voilà, Paul, il est en train d'écrire à Philémon pour lui dire « Je t'envoie Onésime et je te demande de le reprendre avec toi et de pas lui faire de problème, en fait. Et de le considérer comme un frère dans la foi, puisque c'est ce qu'il est, en fait, maintenant. » En même temps, quand il amène ça, c'est très intéressant, parce que Paul reste sous l'autorité de Philémon. Et quand je dis l'autorité, c'est très intéressant. C'est pas que Philémon a une autorité sur Paul, c'est que Philémon a une autorité dans la société sur Onésime. Tout à l'heure, on parlait des femmes, les enfants, les machins, mais l'homme, il peut, la femme, elle peut ne pas travailler, tout ça et tout. Mais voilà, c'est ce que Dieu voulait au début, donc pourquoi est-ce que je dois pas l'appliquer de manière absolue dans la société ? Ok, là, c'est l'esclavage. L'esclavage, c'est pas de Dieu. Pas de Dieu. Philémon, il est chrétien. Il reçoit même l'église de Colosse dans sa maison. Comment il s'appelle ? Onésime, il devient chrétien. Paul, il est supérieur spirituellement à Philémon. Donc, en termes de bien et de mal, et l'esclavage, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il devrait dire ? Il devrait dire, il n'y a pas de discussion. C'est une limite, une dérogation que tu aies des esclaves. Lui, il s'est converti, tu le reprends et tu te la fermes. Il fait pas du tout ça. On va lire. Il fait des pieds et des mains des salamanèques pour lui dire si tu veux bien, nanani, nanana, nanana, mais tu sais, on s'aime bien, papa. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis Paul, vieillard, dis pas Paul, apôtre, supérieur à toi, sachant ce que Dieu veut et t'imposant ce que tu as à faire dans ta vie. Parce que tu es un méchant marchand d'esclaves et un maître qui a plein de pognon qui devrait tout donner à l'église. Il dit pas ça. Il dit pas ça, Paul. Et c'est Paul, hein, c'est pas moi, hein. Il dit pas ça. Enfin, c'est pas ce que je lis là. Il dit, je suis juste un vieillard, moi. Je suis juste Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Là, Paul, il fait un jeu de mots. Onésime, ça veut dire inutile, ça veut dire utile, pardon. Et en fait, il est en train de dire que avant, c'était ton esclave, il n'était pas chrétien, il était inutile, il n'était pas Onésime en fait. Et aujourd'hui, il est réellement Onésime, il est le vrai Onésime, il est réellement utile parce qu'il est un enfant de Dieu. Donc, je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Vous voyez que quand même, il a mis du miel sur la tartine pour faire passer la pilule. Hein. Il dit pas juste, moi je suis l'apôtre et puis tu fais comme ça parce que de toute façon, c'est de Dieu et point final. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place. Limite, c'est toi qui n'es pas là où tu dois être. Pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non pas comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère, un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens, alors c'est ça. Si donc toi tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère. Que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur. Et vous allez voir, très intéressant, cette relation Paul-Philémon, en fait, c'est la relation Jésus a eu nous. Jésus nous parle comme ça. Il y a des bonnes œuvres à faire et je ne vais pas te forcer à les faire. Je t'amène à... Et je te donne des bonnes raisons. Ici, on reste dans le contexte. Onésime, moi, Paul, je suis qui je suis, mais je m'estime pas le super apôtre. Et je dis quoi? Je dis que même si tu es un maître et le maître d'un esclave, je me remets sous ton autorité dans la société. Romains 13, toute autorité vient de Dieu, même pour l'esclavage. Et je te le renvoie à toi. Par contre, je veux manifester... ce que Jésus a fait pour nous, oui. Donc, si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Je te demande les choses au nom de la charité. Et ce qui est le plus impressionnant, alors juste avant ça, moi, ce que je pense, donc ça nous parle de la relation entre Jésus et nous. Ça nous explique ce que je vous ai dit par rapport, ok, Onésime, esclavage, machin, truc. Je pense que cette lettre-là, elle est très intéressante pour les relations interpersonnelles et notamment très intéressante, je trouve, un peu à l'aune de ce que j'ai lu tout à l'heure par rapport au fait qu'on se prive de contact, mais qu'on ne doit pas être ennemis. Les femmes, on doit les considérer, les femmes âgées comme nos mères, les pères comme nain. Je pense que, par exemple, un pasteur, quand il prêche dans l'église, je pense que ça, c'est le ton qu'il doit avoir. Même quand il a des choses à dire aux gens. Ça, c'est le ton qu'il doit avoir. Et là où c'est d'autant plus évident qu'il doit avoir ce ton-là et faire la même chose que Paul, c'est qu'une fois qu'il a dit tout ça, la relation entre Paul et Philémon, elle est très libre, en fait. Là, on pourrait dire, bon, il est en train de l'amadouer, machin, tatatatata, il essaye de l'amener à lui par des argumentations, etc. Et en fait, bon ben oui, c'est parce que finalement, pas finalement c'est un inconnu, mais c'est pas forcément un ami intime ou je sais pas, vous voyez, très intéressant. Une fois qu'il a dit tout ça, il dit, donc, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Regardez le verset 22, trop fort. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon en captivité, je te salue ainsi que Marc, Aristarque, machin, tout ça. Donc en fait, la relation qu'il a avec Philémon, c'est j'arrive, tu prépares un logement. Là, je fais pas de préambule et tout. C'est qu'un logement. J'ai une relation qui fait qu'il n'y a pas de problème. Quand je viens à Colosse, tu me prépares un logement. J'ai besoin. Tu me fais un repas, quoi. Donc, hein, limite impoli, le gars. Par contre, là, pour un gars, je reste sous l'autorité légale. Tu es le maître des esclaves. Je te demande, au nom de la charité, pim, pam, poum, je suis pas le super apôtre. Alors que, vu ce qu'il dit au verset 22, tu te dis, mais attends, il pourrait y aller bille en tête, le gars. Ben écoute, l'autre, il s'est converti, je te le renvoie, mais bon, tu le reprends, c'est un frère maintenant, hein, c'est bon, hein, tu connais la doctrine. Hein. C'est ça qu'il dit ? Il dit, écoute, t'es complètement libre. Vous savez, un truc, des fois, qu'il faut pas perdre de vue dans la vie chrétienne, enfin, dans la vie, on est sauvé, il y a des bonnes œuvres à faire, il y a le tribunal de Christ, tout ça c'est vrai, mais vous savez quoi, on a le droit de pécher. Pas en termes d'un droit légal, c'est non mais attends, moi j'ai le droit de pécher. Non, ce que je veux dire par là, c'est que on a le droit de faire les choix qu'on a à faire, on a le droit de se tromper, et Dieu il nous aime pareil. Il nous aime pareil. Sur la croix, il a payé, mais jusqu'au point que, voilà, tu veux pas le recevoir, Onésime? Il t'a volé des trucs, vous savez, comme Jean Valjean qui a piqué les chandeliers aux prêtres. Il t'a volé des trucs, et ben, Paul, il fait comme le prêtre dans Les Misérables. Mais écoute, je vais te les payer, tes chandeliers. Et même, je te paye même les intérêts, si tu veux. Je suis en train de t'expliquer gentiment que tu devrais passer l'éponge, le recevoir et même lui donner un peu parce qu'il faut qu'il vive. Mais si t'arrives pas à le comprendre, moi je suis capable, je paye tout, je m'en occupe. Et Jésus-Christ il fait ça vis-à-vis de nous. Il est pas là à regarder à dire 20 ans de vie chrétienne, l'autre il commet encore ce péché. Il me fatigue. Il verra au tribunal de Christ, il va se prendre un coup de pied dans le derrière, mais il va s'en prendre un, lui. Je l'attends au virage. Non, c'est pas ça. Et ça veut pas. Et de manière aussi absolue, Dieu, il est pas content quand on pêche. Et il peut pas avoir communion là ponctuellement avec nous quand on est dans l'erreur. Mais voilà, je veux dire. On n'est pas disqualifié, il n'arrive pas avec un grand bâton pour nous taper sur la tête. Enfin, il fait ce qu'il a à faire. La correction divine, ça existe dans la Bible. Récolter ce qu'on a semé, ça arrive aussi dans la Bible, et c'est pas la même chose. Éteindre le Saint-Esprit ou la tristesse, ça arrive. Ça existe, hein, c'est dans la Bible, hein, je l'enlève pas. Hein. Mais voilà, et je trouve voilà que ce livre, cette lettre-là, très intéressant pour un pasteur ou un enseignant, je me l'applique à moi, de quelle manière je vais dire les choses aux gens, et notamment au pupitre. Et à plus fortiori, si on n'est pas au pupitre. On a fait péter le chronomètre, à la semaine prochaine.